France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la chute d'Abel Gance, le Napoléon du cinéma français. Pour les cinéastes, Napoléon c'est N le maudit. De Stanley Kubrick à Ridley Scott, aucun, pas même le plus mégalo, n'est sorti indemne de sa confrontation avec le plus illustre des Français. Et de fait, qui se souvient qu'Abel Gance fut un jour le plus célèbre et le plus ovationné des pionniers du cinéma français? Parce qu'il est le premier à avoir noué un pacte faustien avec l'empereur. En 1925, débute le tournage de son Napoléon, vu par Abel Gance, un projet pharaonique en 8 parties, le plus gros de l'histoire du jeune cinéma français. Le problème d'Abel Gance, c'est qu'il a toujours vu trop grand. Le cœur d'un romantique, l'ego d'un général, se heurte comme jadis son héros à la réalité. Le tournage épique du premier film, en effet, est proche de la Bérézina et les autres ne verront pas le jour. Dès sa sortie, l'œuvre est mutilée, altérée, éparpillée. Un chef-d'œuvre perdu dont il faudra 90 ans pour recoller les morceaux. Notre invité aujourd'hui, Dimitri Veziroglou, historien spécialiste du cinéma français, professeur à l'université de Lorraine, auteur de nombre d'articles sur Abel Gance et de son Napoléon. Il prépare actuellement la publication d'une importante monographie sur le cinéaste. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Bastien Jans, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Paris, 7 avril 1927, 20h30. L'avenue de l'Opéra est prise d'assaut. À l'invitation du président de la République, Gaston Doumergue, l'état-major français est invité au Palais Garnier pour une soirée en l'honneur des anciens combattants de la Grande Guerre. Au milieu des gueules cassées et des épaules galonnées se mêle le tout Paris artistique. Ce soir, pour l'occasion, Abel Gance, le cinéaste français le plus en vue des années 20, montre enfin sa nouvelle œuvre, Napoléon. Et c'est peu de dire qu'il est attendu au tournant, monsieur Gance. À 37 ans, ce cinéaste est aux portes de la gloire. Dans la presse spécialisée, où on a suivi avec passion l'épopée du tournage, on annonce déjà depuis plusieurs mois le plus grand film des temps actuels, Napoléon, qui est d'ailleurs le 4e film de l'histoire à avoir les honneurs de l'Opéra de Paris. Depuis quelques jours, son prologue est montré aux milliers de spectateurs du cinéma Madeleine et du Gaumont Palace. Un teasing, comme on dirait aujourd'hui. Et voilà les spectateurs plongés dans le froid hiver de 1780 à l'école militaire de Brienne, dans le sud de la France. Des centaines d'enfants jouent dans la neige, et une silhouette se distingue dans la masse, un regard d'aigle. L'enfant Napoléon remporte une bataille épique de boules de neige. Une précision s'impose. La partition que nous entendons est celle qui ouvre la version restaurée du film en 2024. Celle entendue par les spectateurs de 1927 est à jamais perdue. Et d'ailleurs, au soir de l'avant-première de l'opéra, le compositeur Arthur Honegger n'a pas totalement fini de la composer. Ce qu'ont vu les spectateurs de 1927, en revanche, est à peu près connu, quoi qu'il faille s'y retrouver dans les quelques 22 versions du film qui ont existé depuis. La veille de la grande première, Gance et sa monteuse, la courageuse Marguerite Bauger, travaillent encore d'arrache-pied sur le négatif de 5600 mètres, soit environ 3h45 de film. Durée acceptable pour une soirée avec des officiels. Ça paraît beaucoup, mais c'est peu par rapport aux 12800 mètres de pellicule, soit 9h40, qui composent la version dite longue, la vraie version du Napoléon vu par Abel Gance. Harassée après des jours sans repos et des nuits sans sommeil, Marguerite Bauger est enfin assise devant l'écran géant de l'opéra, 15 mètres sur 4. 40 ans plus tard, au micro de l'émission Cinéaste de notre temps, elle se souvient de ce moment traumatique.
Ça s'est bien mal passé, vous savez. Comme j'avais travaillé toute la nuit, j'avais laissé, on avait des lettres que Napoléon écrivait dans la voiture à Joséphine. Et ces lettres-là, on ne les avait pas reçues. Au dernier moment, on les a reçus pendant que j'avais été tout de même me reposer quelques heures. Et j'avais une de mes assistantes qui était là, qui avait reçu, et elle avait collé toutes les lettres à l'envers. Quand ça a passé à l'opéra, la première lettre, la tête en bas. Oh, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? La deuxième lettre, la tête en bas. Alors, on a couru et j'ai transpiré. J'avais une belle robe toute neuve que je venais d'étraîner et je ne l'ai jamais remise. J'ai transpiré, je l'ai brûlée d'un bout à l'autre. J'ai jamais voulu rentrer dans l'opéra après, tellement j'étais vexée et en colère.
Des cartons projetés à l'envers, un ensemble musical pour le moins cacophonique. Il y a bien quelques journalistes pointilleux pour relever les couacs techniques et les invraisemblances d'un scénario amputé de ses deux tiers. Mais là n'est pas l'essentiel. Avec son romantisme viril, son patriotisme exalté et sa célébration de l'homme providentiel, le Napoléon de Gans a bien choisi son premier public. Celui-ci est tout acquis. Dans les rangées de l'opéra, le capitaine de Gaulle est assis non loin du jeune André Malraux, sous l'œil du général en chef des armées françaises, installé non loin un certain Philippe Pétain. Quant au moment de l'émouvante séquence révolutionnaire, dite du club des Cordeliers, l'interprète de Danton, Alexandre Koubitsky, entame en direct une Marseillaise, et là, tout l'opéra exulte. Mieux encore, Gans a réservé une surprise de taille. Il a fait équiper la salle de projection de 3 appareils au lieu d'un. Sa vision du destin de Napoléon accouche alors d'une idée de cinéma géniale, ce qu'il appelle la polyvision. Lors de l'impressionnante séquence de la campagne d'Italie qui clôt le film, un gigantesque triptyque éclabousse l'écran de lumière pour que le spectateur profite pleinement de toute la démesure du destin napoléonien. Minuit passé, Abel Gans est porté au nu. Et le lendemain, la presse parisienne est groggy de bonheur. Florilège.
L'œuvre considérable de M. Abel Gans a fait une grande impression. Un souffle d'épopée anime ce film, qui est l'une des plus puissantes réalisations cinématographiques que l'on ait vues.
Une première sensationnelle. Le film, magnifiquement réalisé, abonde en trouvailles, et ce maître de la technique qu'est Abel Gans a su donner à son œuvre une ampleur, un souffle qui atteigne au sublime. Le réalisateur a accompli un travail gigantesque, presque surhumain, et il nous a donné de nouvelles preuves de son génie. Napoléon est un film qui honore grandement le cinéma français. Et ces artistes ont le droit à nos félicitations, à notre reconnaissance.
Le triomphe est total. Et dans son sillage, près de 20 000 Parisiens se pressent au Palais Garnier pour découvrir cette version de 4 heures du Napoléon d'Abel Gans. Sauf que personne ne voit la même. Car chaque jour, Gans en modifie la composition, retravaillant continuellement son montage. Au fil des 10 séances à l'opéra, un bruit un peu moins enthousiaste se fait de plus en plus entendre. Le film serait décousu, il y aurait des longueurs. Mais surtout, on se met à douter du message qu'il véhicule, de la vision qu'il propose de l'histoire de France. On l'accuse de porter un discours contre-révolutionnaire, de célébrer avec un romantisme naïf l'avènement d'un dictateur. La première flèche est décochée par le journal L'Humanité le 23 avril.
Un film vaut d'abord pour ce qu'il exprime. Il nous faut insister avec la vigueur nécessaire sur ce Napoléon qui est faux d'abord, dangereux ensuite, et réclame notre condamnation sans appel. Le cinéaste a pris ici toute la responsabilité du sujet. Nous le rendons donc seul responsable d'un scénario qui nous restitue un Bonaparte de pure fantaisie, surgi d'une révolution française constamment fausse et au point de vue historique, et même au point de vue purement bourgeois, inacceptable. Un Bonaparte pour apprenti fasciste.
C'est dans un contexte de plus en plus tendu que Gans travaille sur la copie magistrale de son film, celle qui doit être exploitée dans les salles françaises. Un mois après le triomphe de l'opéra, la version de 9h40 est présentée aux journalistes et aux exploitants dans une séance organisée en grande pompe. Figurant grimé en cavalier, costume d'empire, étendard frappé du N en exergue, ce nouveau montage subjugue la presse. Du grand art, dit-elle. Mais elle non plus n'est pas complète cette œuvre, puisqu'elle est amputée des fameux triptyques, faute de place pour installer le dispositif. Bon, ce n'est que partie remise, se dit Gans. Bourreau de travail et bourreau de sa monteuse, il découpe, intervertit, superpose, ralentit et affine encore un montage qui atteint laborieusement les 7 heures avec triptyque. C'est la version définitive envoyée aux exploitants de France et du monde. Gans ne le sait pas encore, mais cette version ne sera en fait jamais projetée avant 2024. Et une campagne de restauration qui aura duré 16 ans. Le cinéaste a engendré un film fantôme qui n'existera jamais dans les salles de son vivant et le hantera toute sa vie.
Ça s'appelait Perspective sonore. C'est resté là, mais non, c'est devenu, sous un autre vocable en Amérique, la stéréophonie. On t'a volé ton idée. Et là, le grand écran panoramique, on t'appelle Cinémascope. Mais tu n'étais pas autre chose en 1927. Je sors, mes amis, parce que j'ai trop de tristesse, trop de mélancolie.
Les rêves perdus d'Abel Gans. Tel est le titre de l'émission que nous venons d'entendre et qui date de 1956. Car au milieu des années 50, le cinéaste réapparaît après un long silence. Sur les raisons de cette traversée du désert depuis la fin de la guerre, comme sur ses compromissions pathétiques avec le régime de Vichy, Abel Gans ne se montre pas très disert. Derrière l'homme de spectacle, l'artiste body qui se donne à voir, Gans est un homme secret. Ses origines, son enfance meurtrie, il entretient toujours un flou. On sait aujourd'hui qu'il est né en 1889, d'une union illégitime, qu'il a grandi dans le Paris pauvre du 18e arrondissement, et qu'au cours des années 30, il sera désigné par une certaine presse comme juif. On le traite alors de Victor Hugo de synagogue. Son nom est même inscrit sur une liste d'artistes israélites au début de l'occupation, et Abel fera des pieds et des mains pour prouver le contraire. Son amitié avec Céline et ses odes appuyées au maréchal Pétain à chacune de ses sorties publiques l'aideront à trouver une place et sa place dans la France de Vichy. Mais son départ précipité pour l'Espagne franquiste en 1943, avant un retour tout aussi précipité en France, à la Libération, ajoute un peu plus de trouble. Gans n'a jamais cessé de pactiser avec le diable. Mussolini, Pétain, Franco, puis Mao dans les années 60, tous auront reçu un jour les flatteries du maître dans l'espoir de voir financer ses films. Et bien sûr, le vieux cinéaste n'en parle jamais, évoquant rarement le passé. Jusqu'à la fin de sa vie, il ne parle que de l'avenir du cinéma, de la très haute idée qu'il s'en fait et que les autres ne se font pas. Alors il enrage contre ces médiocres qui ont entravé la réalisation de ses grands projets, son Jésus-Christ, son Christophe Colomb. Il le dit à Jacques Chancel en 1974.
Le cinéma, pour moi, c'est une magie. Malheureusement, le cinéma est devenu un instrument pour le commerce. Et je trouve que là, il y a une espèce de sacrilège contre cet art extraordinaire. Je comprends seulement que j'ai en quelque sorte manqué ma vie en faisant la plupart du temps de la prostitution, non pas pour vivre, mais pour ne pas mourir, ce qui est une nuance.
À 20 ans, en 1909, le jeune Gans se lance en autodidacte dans le théâtre. Raté. Il choisit alors l'industrie du cinéma comme une voie de garage pour manger. À l'époque, on entre dans le métier comme on entre dans un moulin. C'est un coup de foudre. 3 ans plus tard, il écrit déjà un manifeste éloquent pour ce sixième art qu'est le cinéma. Plus subtil, plus aigu, plus éthéré, plus divin, pouvant livrer aux foules des messages spirituels dont il se sent pénétré. Tout un programme. Après une dizaine de scénarios écrits pour d'autres, il réalise ses premiers films sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. D'abord des films de propagande pour l'armée française, ensuite des films furieusement pacifiques, quand le vent tourne. Tout Gans est déjà là. Peu importe ce qu'il raconte, tant que ses films véhiculent un message puissant, transcendant. Et il est prêt à tout pour repousser toujours plus loin les possibilités du langage cinématographique. Son collaborateur de toujours, Léonce-Henri Burel, se souvient de l'ambiance des premiers tournages, au micro de France Culture en 1982.
Et on trouvait tout sur place. On trouvait les machinistes qui étaient des ouvriers du pays, des paysans qui venaient nous donner la main, mais c'était tout. Pour la zone de la mort, on avait trouvé une usine destinée à être démolie. Et Gans ne ratait jamais une occasion, a dit « mais si on démolissait cette usine nous-mêmes, on pourrait avoir des images épatantes. » La première fois, zéro. La deuxième fois, zéro. La troisième fois, quelques brins, rien du tout. Alors, Gans et moi, on a eu l'idée d'aller voir pourquoi ça n'allait pas. Et c'était à ce moment-là que la cheminée est dégringolée.
Cette période fructueuse débouche sur deux chefs-d'œuvre d'avant-garde. J'accuse, en 1919, qui fait connaître le nom de Gans jusqu'à Hollywood, et surtout La Roue, un film d'une ambition folle, transposant le mythe de Sisyphe au destin tragique d'un cheminot, film considéré par Jean Cocteau comme le plus important de l'histoire du cinéma français. Le tournage, qui a duré 2 ans, jusqu'en 1923, a été un véritable chemin de croix pour le jeune réalisateur. Traversant la France avec ses visions grandioses et son équipe réduite, affrontant une avalanche, un accident de train, une grève et une quasi-faillite, il doit aussi s'occuper de sa jeune compagne, Ida, dont la santé décline. Et quand il parvient enfin au bout de ce tournage infernal, celle-ci décède, bientôt suivie dans la mort par son acteur vedette et grand ami Séverin Mars. Quand son film La Roue sort enfin, en 1923, après des mois de montage et 4 ans de production, Gans sait qu'il est un artiste maudit et ses producteurs sont au supplice. Le film dure 7 heures et le public est pour le moins sidéré devant un spectacle qui ne ressemble à rien de déjà vu. Il faut dire qu'à l'époque, il n'a pas vu grand-chose, le public. Le cinéma est un art qui se cherche. D'ailleurs, le critique Émile Vuillermoz, dans Ciné Magazine, considère déjà La Roue comme un film trop commercial.
Abel Gans possède, sans discussion possible, le génie cinégraphique. Il est né pour parler le langage silencieux des images mouvantes. Il fait partie de cette génération attendue qui pense spontanément en visions animées. Mais j'ai dit et je répète que Gans est un homme de génie qui n'a pas de talent. Le scénario de La Roue appelle les critiques les plus sévères. Ici encore, nous avons assisté au triomphe des plus lamentables préjugés. C'est sans doute pour obéir au catéchisme de persévérance des metteurs en scène qu'Abel Gans, ce poète inspiré, ce visionnaire puissant, a conçu une anecdote romanesque de la plus médiocre qualité. C'est évidemment parce qu'on lui a affirmé que le gros public l'exigeait qu'il a introduit dans son action des fantoches ridicules, des personnages de café-concert dont les pitreries sont de si mauvais goût.
Charles Pathé, le patriarche du cinéma français, pousse Abel Gans à penser plus grand encore. Il doit viser le marché mondial et aller voir comment on travaille aux États-Unis. Alors il est invité à visiter le plateau de tournage d'un certain D.W. Griffith, qui admire son travail. Le grand pionnier américain, auteur de la première fresque hollywoodienne « Naissance d'une nation », soit dit en passant une œuvre raciste à la gloire du Ku Klux Klan, réalise alors un film sur la Révolution française. Alors, pendant 5 mois, Gans s'abreuve des méthodes du cinéma hollywoodien. Il entend un jour le maître, Griffith, parler au détour d'une conversation de son admiration pour Napoléon. Et cela fait tilt. Hors de question de laisser le cinéma américain s'approprier le destin d'un empereur français. C'est lui, Gans, qui le racontera. Et avec ce film, il conquérera l'Amérique. De retour en France, il s'échine pendant 2 ans à écrire et à financer son immense projet. Sauf que le cinéma français va mal. Le cinéma italien pas mieux et personne ne veut s'y risquer. Alors Gans signe un pacte des plus étranges. Il s'accorde sur un budget de 7 millions de francs pour 6 films de 2000 mètres de pellicule avec la Westifilm. Derrière ce nom, Westifilm, se cache un mariage entre un magnat russe, Vladimir Vengerov, et un industriel allemand, Hugo Stinnes. Voilà Napoléon, le plus grand film français jamais réalisé, placé sous une bannière inattendue, une sorte de pacte germano-soviétique.
Les ombres sont en ombre. rêves montent. Le noir et blanc s'affrontent.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le Napoléon d'Abel Gance.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Vous êtes tous des héros. Vous allez souffrir. Vous allez avoir froid, faim, peur. Mais vous allez faire quelque chose qui ne s'est jamais fait. Nous ne faisons pas un film, nous faisons un acte de foi. Il n'y aura pas de petite besogne ici. Chaque câble, chaque projecteur, chaque clou participera à une œuvre qui doit dépasser le cinéma. Si vous cherchez le confort, partez. Si vous cherchez la gloire facile, partez. Mais si vous voulez entrer dans l'histoire, alors restez et allons jusqu'au bout.
Voilà le message, signé Gance, placardé sur les portes du studio de Boulogne-Billancourt, où commence le tournage en janvier 1925. Alors, le film a nécessité des mois et des mois de préparation. Une société du nom des films d'Abel Gance a été créée pour réunir les différents fonds venus de l'Europe entière et coordonner tous les efforts. L'avocat berlinois Rudolf Becker supervise les opérations pour la Vestifilm. L'ouvrage est titanesque. Il nécessite le développement de 20 caméras différentes, dont le fameux appareil à triple objectif pour créer les triptyques. Il nécessite des automobiles, des traîneaux, des chariots montés sur table, une pendule de 10 mètres de long, un cheval au galop. Tout est envisagé comme support pour créer des images en mouvement. 500 chevaux, 2000 fusils, 50 000 cartouches, 8000 costumes d'époque et autant de figurants nécessaires. La production mobilise des ouvriers en grève de l'usine Renault d'à côté, pour venir garnir ses troupes, enhardies par le général Gance, jamais aussi à l'aise que quand il s'agit de galvaniser une foule. Bien, reste le plus difficile à trouver, Napoléon lui-même. Alors Gance a d'abord proposé le rôle au grand acteur russe Ivan Mosjoukin, mais celui-ci a fini par refuser. Les castings s'enchaînent, sans que personne ne parvienne à entrer dans le costume jusqu'à l'apparition d'Albert Dieudonné. Celui-ci débarque un soir au château Fontainebleau, où Gance s'est réfugié pour écrire le scénario. À la lumière du feu, la silhouette à tricorne apparaît, et Dieudonné, costumé, se met à déclamer de tête le discours du jeune Bonaparte à son armée d'Italie. 30 ans plus tard, celui qui se fera tout de même enterrer avec son costume de Napoléon se souvient par cœur des mots qui ont changé sa vie pour la caméra de l'émission cinéaste de notre temps.
Je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. De grandes villes, de riches provinces seront en votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, gloire, richesse, soldats d'Italie. Manqueriez-vous de courage ou de constance ?
Avril 1925, Ajaccio. Napoléon est en ville. Albert Dieudonné ne quitte plus son costume, doit dormir avec. En tout cas, il est entré plus que de raison dans son personnage. Il faut dire que chacune de ses apparitions suscite l'émoi de la population corse. Un soir, qu'il se présente en costume au balcon de l'hôtel, le voilà porté en triomphe toute une nuit lors d'une improbable marche au flambeau. Dans la capitale corse, le parti bonapartiste, sur le point de reprendre la mairie aux républicains, se frotte les mains. Ce parti ne cherche pas seulement à célébrer le culte du glorieux enfant du pays. C'est surtout une antenne efficace pour diffuser les idées de l'extrême droite française, farouchement anti-républicaine et proche du fascisme italien. Le candidat Paoli est d'ailleurs financé par le richissime François Coty, patron tout-puissant d'une maison de parfums et directeur politique du journal Le Figaro, indéniablement le principal agent du chaos à cette époque en France. En débarquant à Ajaccio en pleine élection municipale, l'équipe de production de Napoléon met les pieds dans un véritable bourbier. « Comment ?» s'écrit le maire républicain alors en poste. « Promener dans les rues d'Ajaccio un Bonaparte à cheval, en costume, vous voulez ma mort ? Les esprits sont déjà surexcités, nous allons à une meute !» Le chef du parti bonapartiste, lui, sait trouver les mots justes. « Donnez-nous votre Napoléon, nous lui promettons une apothéose. Il défilera à cheval rue Fesch, couvert de fleurs par la population. Ce sera une minute inoubliable pour lui et pour vous. Quelle publicité !» Bien sûr, Gans, qui a déjà par le passé donné du son excellence à Benito Mussolini pour obtenir le droit de tourner en Italie, n'a aucune raison de refuser cette foule exaltée et gratuite à l'œilleton de sa caméra. Il a d'ailleurs, quelques mois auparavant, déjà sollicité, sans succès, François Coty pour faire financer son film. Il faut finalement l'intervention du préfet de Corse pour interdire le tournage de cette marche triomphale de la figure au tricorne dans les rues d'Ajaccio. Restez au-dessus de la mêlée, demande-t-il à Gans. La République pose sa patte sur le tournage de Napoléon. Pour cela, et pour des raisons plus obscures encore, voilà qu'Abel Gans se trouve dans le viseur de François Coty. Le 28 septembre 1925, Le Figaro publie en une son édito.
Pourquoi je ne donne pas mon concours au film dont Napoléon sera l'étoile ? Depuis la conclusion de la paix, et surtout en ce moment précis, tout l'effort de la propagande anti-française tend à montrer la France impérialiste, militariste, implacable dans sa haine contre la pauvre Allemagne, des Français buveurs de sang. On va montrer à 100 millions d'Américains, on va montrer à d'autres peuples les images de l'épopée napoléonienne, des batailles, des massacres, des monceaux de cadavres. On dira sommairement, perfidement, la guerre sans trêve, c'est toujours la France. Le héros de la France est Napoléon guerrier. La France, Napoléon, c'est toujours la guerre. L'impression visuelle consolidera les faits. Une besogne terrible s'accomplit contre nous. Je ne veux pas y participer.
Pris en étau dans un dangereux jeu géopolitique, attisant haine et convoitise dans tous les camps, Gans mène sa marque en pleine tempête. Comme son héros d'ailleurs, dans la scène la plus spectaculaire du film, sur le tournage de laquelle le malheureux Albert Dieudonné a bien failli se noyer. À l'automne 25, le navire de Gans est sur le point de couler. Le fameux industriel allemand Hugo Stinnes meurt soudainement et quelques mois après, son faramineux empire sidérurgique fait faillite. Le tournage de Napoléon est arrêté, il n'y a plus un sou. Pendant 6 mois, Abel Gans fait le tour de l'Europe pour trouver de quoi finir son film. Ce sont finalement ses nombreux amis du cinéma français, à travers la création de la Société Générale des Films, qui permettent au tournage de reprendre. Sauf qu'il est cette fois entendu qu'il n'y aura qu'un film, et pas 6 ou 8. En janvier de 1926, le tournage reprend à Boulogne-Billancourt, avant de prendre le chemin de Toulon pour filmer le siège, le premier fait d'armes de Napoléon. Le tournage est alors suivi par le jeune Jean Arrois, qui idolâtre Gans et raconte le tournage homérique dans Ciné Magazine, on est en 1927.
L'orage, qui constitue un des épisodes du siège de Toulon, nécessita la création d'une pluie artificielle dans le studio. Des milliers de mètres cubes d'eau tombèrent sur les artistes et les figurants. La grosse autopompe des sapeurs-pompiers de la caserne Chaligny fut louée. 6 moteurs d'avion produisirent un vent de cyclone. La grêle nécessita 1500 kg de sel gemme. La neige fut réalisée par la chute de 500 kg d'acide borique. L'équipement électrique comprenait 225 lampes de tout genre qui inondaient le studio de clarté. La photographie de quelques éclairs pendant la tempête nécessita la construction d'un atelier spécial alimenté par du courant à haute tension. On produisait des étincelles à la tension moyenne de 400 000 volts et on reconstitua 700 mètres carrés de vagues tempétueuses en studio.
Ce que ne raconte pas Roy, c'est qu'un jour, la poudre de magnésium utilisée pour créer les éclairs sous la pluie explose. Abel Gans est projeté dans les airs, son corps atteint par les flammes. Cette fois, l'Icare du cinéma français s'est bien brûlé les ailes. S'il est de retour sur le plateau de tournage seulement une semaine plus tard, le corps et la figure recouverts de bandages, le grand mystique qu'est Gans ne peut pas avoir manqué d'interpréter le signe que lui a envoyé, disons, le dieu du cinéma. 23 mars 1928, un an après le triomphe de l'opéra que nous vous avons déjà raconté, Napoléon, vu par Abel Gans, sort enfin au Gaumont Palace, la Mecque du cinéma parisien. Sauf que le cinéaste n'est pas là. Non, il a refusé de venir. Parce que cela fait des semaines qu'il est entré en conflit avec la MGM, mariage sans avenir de la Gaumont et du studio hollywoodien Metro-Goldwyn-Mayer, qui distribue le film. Au cinéma Marivaux, où l'œuvre a déjà été montrée au public, la version de 7 heures était découpée en épisodes. Alors selon l'heure de la journée, on pouvait assister au choix, au prologue, à la séquence révolutionnaire, au siège de Toulon, etc. Au Gaumont Palace, pas plus qu'à Londres, Berlin ou Amsterdam, la MGM, qui vient donc de rompre avec la Gaumont, ne compte montrer la version de 7 heures concoctée par Abel Gans. Alerté par Gans lui-même avant la première du Gaumont Palace, Émile Vuillermoz prend la défense du cinéaste dans le journal Le Temps.
Une société américaine va présenter un film français dans l'un des établissements qu'elle a acquis récemment. Ce film est le Napoléon d'Abel Gans. Or, ces représentations vont avoir lieu contre la volonté formelle de l'auteur, qui prend la presse et l'opinion à témoin du traitement dont il est victime. Gans dénonce avec énergie les coupures, les transpositions, les interversions de scènes, les erreurs de montage, les titres mutilés, transformés, défigurés qui, selon lui, non seulement rendent son œuvre incompréhensible, mais la détournent de son véritable sens. Que dirait-on si un chef d'orchestre taillait dans le vif d'une symphonie, en intervertissait les thèmes ou en changeait les harmonies?
Mais le chemin du succès est plus cruel que tout. Le film est un triomphe public, battant tous les records. Sauf que chaque entrée blesse un peu plus Abel Gans, qui ne reconnaît rien de son film mutilé. Car des séquences entières sont coupées, des cartons-titres réécrits, des scènes interverties, le tout ne respectant plus la moindre chronologie. Il parodie. Gans porte l'affaire en justice, avant de se rétracter aussitôt, craignant probablement la force de frappe du studio américain. Et celui-ci lui rend bien. Napoléon sort dans une petite salle des faubourgs de New York, dans une version ramenée à 90 minutes. Alors la presse américaine ricane. Divertissement de basse qualité qui convient probablement pour les Français, mais n'a aucun intérêt pour le public américain. C'en est fini du rêve hollywoodien d'Abel Gans. Mais le voilà déjà remis sur pied, regardant toujours vers l'avant. Fort du succès public de Napoléon, il convainc des financiers qui possèdent des carrières dans le nord de la France d'investir dans son nouveau film. Adapté d'un roman de Camille Flammarion, cette nouvelle œuvre porte un titre pour le moins annonciateur, La fin du monde, ni plus ni moins, avec Gans en vedette et, s'il vous plaît, avec du son. Car l'empereur des films muets veut à présent régner sur l'ère du parlant qui s'ouvre alors. Gans se souvient d'un tournage de La Démesure où il a tout osé. Difficile aujourd'hui de ne pas trouver ses méthodes pleinement problématiques.
Silence. 732 heures à vivre.
J'ai laissé 48 heures, mais figurons, sans boire et sans manger, sans dormir. Je les ai dit, vous êtes enfermés aujourd'hui, on sortira après-demain. D'ici là, je tournerai les scènes demain soir, dans la nuit, mais vous n'aurez ni à manger ni à boire. Tous les gens étaient enchantés, chose originale. Mais il fallait voir la soif, la frénésie, hommes et femmes. Alors qu'est-ce qui s'est produit dans cette dernière nuit? C'était incroyable. Je dis, faites ce que vous voudrez maintenant. Le monde va finir. Dans quelques minutes, c'est la fin. Je vous laisse le choix. Faites ce que vous voulez. Vous avez des femmes, vous avez du vin, vous avez tout ce que vous voulez.
Cette fois, Abel Gans a perdu pied. Il ne finira pas le film. Celui-ci devait durer 3 heures. Il sera réduit de moitié. Et les critiques se déchaînent. Le son est inaudible, le propos pachydermique, le jeu de Gans risible. L'apocalypse d'Abel Gance tourne ainsi au désastre, coulant avec lui les pauvres carriéristes du Nord, sa propre carrière et une certaine idée du cinéma français tel qu'il n'existera plus vraiment après lui, libre, démesuré, expérimental. Si Abel Gance se recycle dans des réalisations de moindre ambition, son Napoléon le poursuit jusqu'à la fin de sa vie. Il remonte sans cesse ses images, ajoutant du son, des séquences complètes, créant des nouvelles versions et collaborant en première campagne de restauration. Dans les années 70, Hollywood découvre enfin à sa juste mesure l'œuvre immense d'Abel Gance. C'est grâce à l'impulsion d'un jeune cinéaste en vue qui voue une admiration sans borne au maître français, un nom, le sien, qui évoquera le génie et la mégalomanie un certain Francis Ford Coppola. Le cinéma américain, enfin, regarde Abel Gance. C'est trop tard, regrette le vieux cinéaste en 1981, juste avant de mourir.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le Napoléon d'Abel Gance, notre invité Dimitri Vesiroglou. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes historien spécialiste du cinéma français, professeur à l'Université de Lorraine. Vous êtes l'auteur de nombreux articles de recherche à propos d'Abel Gance. Vous avez notamment participé à la publication chez l'éditeur Vermillon autour du film Napoléon vu par Abel Gance à l'occasion de la restauration de l'œuvre en 2024 par Georges Mourier et par la Cinémathèque française. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur l'aventure de cette restauration qui aura duré 16 ans et qui éclaire toute la complexité de la trajectoire éparpillée de cette œuvre majeure du cinéma français? Comment un film si important du patrimoine a-t-il pu connaître un destin aussi difficile?
Pour plusieurs raisons. D'abord, je dirais un peu à cause de Gance lui-même. Parce qu'il a, comme ça a été dit dans le propos auparavant, lui-même énormément retouché son film, travaillé sur le négatif, et ça s'est pas arrêté en 1927, puisqu'il a réalisé deux autres versions du même film, une sonore en 1934, et puis également en 1969-71. C'est-à-dire qu'il en fait, il a recoupé dans son négatif lui-même, il a réagencé des scènes, rendant quasiment impossible en réalité la reconstitution du film d'origine. Et puis il y a l'aventure de l'exploitation qui a aussi démantelé complètement le film.
Alors au bout du compte, le film en 1927 est un succès populaire, hein, et paradoxalement il est un terrible échec pour le cinéaste qui ne s'en remettra jamais.
Non, il ne s'en remettra jamais, même s'il a continué à travailler. Il a, en fait, beaucoup travaillé pendant les années 1930. Il fait quasiment, enfin, au moins un film par an. Mais en réalité, l'échec de Napoléon a été, oui, une sorte de blessure extrêmement durable. Et les grands films qu'il entreprend par la suite auront un destin
maudit.
Similaire.
N le maudit, un peu comme Fritz Lang. Là, c'était M pour le coup. Et qu'est-ce qui rend ce Napoléon si important dans l'histoire du cinéma français, finalement ?
Beaucoup de choses. Alors, il y a évidemment toute l'expérimentation technique, c'est-à-dire cette ambition pour Gance, qui anime Gance quasiment depuis ses tout débuts, de révolutionner le langage cinématographique. Il se sent investi d'une mission de porter le cinéma plus loin que ce qu'il a jamais, que ce qu'il n'a jamais atteint. Et puis, bon, cette aventure incroyable du montage financier, du tournage, de l'écriture du film, etc., qui en fait une sorte d'événement, et je dirais même son échec même, d'une certaine manière.
Oui, c'est ce qui ressort du récit, d'ailleurs.
Oui, c'est un échec retentissant, monumental, et qui mobilise aussi des niveaux de discours, y compris politiques, ça a été dit, qui sont multiples et qui en font un exemple de film mobilisateur, je dirais, pour la société.
Alors, ensuite, il y a eu la fin du monde, qui porte à la fois très bien et très mal son titre, hein, puisque c'était un petit peu la fin pour Abel Gance. Est-ce que c'est la mégalomanie ou le parlant, ou le cinéma parlant qui a tué Abel Gance, finalement ?
Alors, le cinéma parlant n'a pas tué Abel Gance, parce que sa passion pour les expérimentations techniques, dès que le son arrive, enfin, en réalité, ça l'intéresse énormément. Voilà, ça l'intéresse énormément de travailler. Hein, on a parlé de la perspective sonore, effectivement, c'est quelque chose qui l'intéresse énormément. Le problème de La fin du monde, c'est que, alors d'abord, il l'a écrit pour qu'il soit tourné en muet. 1928-1929.
Ça nous rappelle le film The Artist, ça.
Et oui, voilà. Donc c'est un film qui devait être tourné en muet, sauf que janvier 1929, c'est la diffusion du chanteur de jazz en France. Énorme succès comme partout ailleurs, qui commence à faire douter les producteurs, qui mettent à l'arrêt les tournages des films muets en se disant non, il faut s'adapter, il faut changer. Et le tournage de La fin du monde va être l'une des victimes de ce changement de pied des producteurs, et son passage au parlant va se faire pendant le tournage, c'est-à-dire que quand le tournage reprend, les producteurs ont décidé d'en faire un film parlant. Gance suit, mais évidemment dans des conditions complètement improvisées, extrêmement problématiques. Lui, il a toujours en tête de réaliser quelque chose de génial, sauf qu'il le fait avec des moyens qui sont extrêmement...
Qui ne sont pas adaptés. Et la mégalomanie, est-ce que ça lui a porté préjudice, ou au contraire, c'est aussi sa marque ?
Les deux. c'est sa marque, et ça lui a évidemment porté préjudice à sa mégalomanie. D'ailleurs, il faut ajouter aussi sa paranoïa, pour rester dans le domaine psychologique, puisqu'il s'est toujours vu, en réalité, comme un artiste, au même titre qu'un sculpteur, un musicien, à juste titre, sauf que le cinéma, ça fonctionne un petit peu différemment de la musique ou de la peinture ou de la sculpture. C'est-à-dire que ça nécessite évidemment des moyens financiers énormes, des montages financiers, ça nécessite une diffusion auprès du public, dans des salles, etc. Et que ce sont des contraintes pour Gance qui n'ont aucune importance, sauf que les gens qui financent ces films, ils tiennent énormément. Et donc, il a toujours entretenu une sorte de paranoïa à l'égard des producteurs, qu'il voit comme des sortes de rapaces qui vont ruiner son œuvre, alors que certains d'entre eux, c'est le cas par exemple pour Charles Pathé, avec qui il a eu toujours de très bonnes relations, lui veulent du bien. Il voudrait bien utiliser son talent pour faire des films qui conquièrent le public. Mais Gance ne supporte pas qu'on lui mette la moindre entrave dans son processus créatif.
C'est pour pas le système. Alors, au-delà du Napoléon de Gance, comment caractériser son œuvre ? Est-ce que c'est une sorte Gance de James Cameron des années 20, qui promeut un cinéma spectaculaire, techniquement à la pointe, grandiloquent ?
C'est tout ça à la fois. Je dirais surtout que c'est une œuvre empêchée.
Voilà,
c'est une œuvre qui n'a cessé d'être... défiguré.
Ah bah, l'image de Napoléon. Ouais.
Voilà, c'est ça. Mais en réalité, quasiment tous ces films, quand on se penche sur ces archives, il les réfléchissait, il les pensait autrement que ce qu'ils ont fini par devenir. Et ainsi, il a vécu en permanence dans une sorte de frustration terrible.
France Inter. Sensible.
Dimitri Vesiroglou, il semble que Abel Gance est finalement un destin artistique à part, parmi l'industrie du cinéma, les cinéastes. Lui est à côté dans une démarche qui est presque un peu celle de Napoléon pour le siège de Toulon, le pont d'Arcole. C'est-à-dire qu'il est seul en passant par-dessus un système, par-dessus une organisation.
Tout à fait. Il s'est toujours rêvé, en réalité, comme le Victor Hugo du cinéma. Il a vraiment Hugo comme modèle. Avec cette différence que La Légende des siècles, Les Misérables, Hugo les a écrits, alors que La Légende des siècles ou Ces Misérables, Abel Gance, en réalité, n'aura pas pu les réaliser. Et il a le sentiment, et c'est une réalité, d'être totalement à part, et ça sera reconnu d'ailleurs en particulier dans les années 1950 par les critiques des Cahiers du cinéma, notamment le tout jeune François Truffaut, qui conclut un article sur Abel Gance en 1955 en écrivant « Pour laisser travailler Abel Gance, cherche commanditaire du style Louis XIV », écrire au Cahier du cinéma qui transmettront.
D'accord, voilà. À mécène.
L'idée que pour faire travailler cet homme-là, il faut vraiment sortir du cadre industriel normal. D'où le fait que, effectivement, d'autres cinéastes auront pu se reconnaître aussi dans cette figure.
Et alors, c'est un artiste complexe à situer maintenant sur l'échiquier politique. La roue semble une formidable fable marxiste, alors que Napoléon a pu être considéré comme un film fasciste. Qu'en est-il vraiment ?
C'est extrêmement difficile à sonder. Les opinions politiques de Gans, comme ça a été dit, il s'est adressé aussi bien à De Gaulle qu'à Pétain, à Mao qu'à Franco. C'est quelqu'un qui a peu de jugeote, hein, on va le dire en politique.
C'est pas un stratège, quoi.
Non. La critique qui a été citée de l'Humanité en 1927 est une critique qui est due à Léon Moussinac, grand critique de l'époque, qui était un ami d'Abel Gans, mais qui lui reproche évidemment le caractère fascistoïde, on va dire, du discours du film. Gans est une sorte d'idéaliste. Alors, il est fasciné par les grands hommes, alors que ce soit, là encore, Lénine,
Napoléon
ou Mussolini. Enfin, ouais. Voilà, il est fasciné par les grands hommes. Et il a une sorte de passion pour la paix universelle, l'universalisme. Hein. Il se pense au-dessus, finalement, des partis, de la politique. Et il a d'ailleurs plusieurs projets dont aucun ne verra véritablement le jour, à part La fin du monde, mais c'est vraiment très, très embryonnaire, de films pour porter cette idée d'une sorte de mondialisme pacifique qui résoudrait tous les problèmes de la planète.
Bien. Peut-être que le meilleur Napoléon du cinéma, c'est celui qu'on n'a pas vu, parce qu'il n'a pas été fait. C'était le projet de Stanley Kubrick. Alors évidemment, quand on connaît la dimension de ce cinéaste extraordinaire, on se dit à Napoléon avec Kubrick, ah, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait, non?
Non, alors c'est une histoire très compliquée. Il y a plusieurs films de Kubrick, d'ailleurs, comme il a réalisé plus de films à soi, on va dire, hein, que Gans. Mais c'est un cinéaste qui a été un cinéaste entravé, qui a eu aussi beaucoup de difficultés. Cinéaste ombrageux. Comme Gans, lui aussi très sûr de son talent. Rechignant quand même à faire des compromis avec les producteurs, donc c'est à chercher de ce côté-là, et son projet a été effectivement tout à fait gigantesque. Évidemment, qu'est-ce que ça aurait été
On peut fantasmer
là-dessus beaucoup, mais c'est pas du tout étonnant qu'un cinéaste comme Kubrick, compte tenu de son caractère, compte tenu de ce qu'il est comme artiste, ait repris un projet qui avait été porté par celui qui a été probablement cette comète un peu délirante du cinéma français.
Toute dernière chose, quel est votre regard sur le Napoléon de Ridley Scott, sorti au cinéma il y a 2 ans?
Oublions-le.
Voilà, j'allais le dire, on oublie. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Dimitri Vesiroglou. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui, le Napoléon d'Abel Gans. C'est l'émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, il y avait aujourd'hui Rémi Sistiaga.